une découverte que les archéologues qualifient d'exceptionnelle. Près de Troyes, la tombe d'un prince celte vient d'être mise au jour à deux pas d'une zone commerciale.
Cette mosaïque de 60 mètres carrés est dans un état de conservation exceptionnel.
Sous les rayons de ce supermarché, un mystère. Des archéologues ont découvert ces squelettes sous leurs pinceaux.
Si l'archéologie fait régulièrement l'actualité, on oublie parfois qu'elle peut aussi nous donner la possibilité de mieux comprendre cette actualité et de la regarder différemment.
Elle permet de faire un pas de côté, le temps d'un instant, pour mieux remettre en perspective ce qui nous arrive ou bien ce à quoi nous sommes confrontés.
Car elle nous oblige à questionner nos certitudes et nous montre que ce qui nous paraît évident et ou universel ne l'est en fait souvent pas.
Docteur Jones, je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
Oh, quel joli caillou! Et comment on peut se passionner pour des morceaux de cailloux?
Mais ce ne sont pas de simples cailloux.
Quel genre de chantier sommes-nous?
Je suis sûr qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité.
Les pierres qui roulent.
C'est l'heure des pierres qui roulent sur Radio Campus Paris.
93.9.
Et toi, tu fais quoi dans la vie?
Moi, je suis archéologue.
Ah, c'est génial, mais c'est trop drôle parce que tu sais que c'est ça que je voulais faire quand j'étais petite. Et c'est fou parce qu'en fait, j'avais donc le coffret entier de Indiana Jones. Et derrière, chez mon grand-père, il y avait donc un grand terre-plein. Et avec mes cousins, à chaque fois, on y allait, on faisait des chasses au trésor et tout. Enfin bref, on s'amusait, c'était génial. On déterrait souvent des trucs avec des pelles, bref.
Tengo 5 años trabajando en esta área.
Ça fait 5 ans que je travaille ici, dans cette zone, à Monte Alban. J'aime beaucoup ce travail. Je suis là parce que c'est bien d'apprendre ce que savaient nos ancêtres, comment ils travaillaient et avec quelle technologie. C'est très beau et c'est très agréable de mieux les connaître.
On va faire une petite pause chronique. Grâce à Émile, qui va nous parler d'un sujet que nous allons découvrir.
Ah ben ça, j'espère. Sinon, je ne parlerai pas.
Australopithecus règne en maître sur le grand rift éthiopien depuis des millions d'années. Et c'est son challenger, Habilis, qui fait son entrée. Mesdames et messieurs, c'est à un monstre sacré qu'Habilis va s'opposer. Australopithecus conquérant de la bipédie du haut de son mètre 35. Capacité crânienne 550 cm3. Extension géographique à tout le continent africain. Va remettre son titre en jeu face à Homo Habilis, 700 000 ans d'expérience à peine. 40 kg, 1m50, 800 cm3 de jus de crâne. Oui, 800 cm3. Redoutable virtuose du silex et du galet aménagé. Oh, le combat s'annonce rude. Mais quoi? Un nouvel homo fait son entrée sur le rift. Plus grand, plus beau, plus fort, il se tient incroyablement droit et porte une torche dans sa main. On peut lire son nom sur son short en poil de roc. Homo Erectus!
C'est le trésor le plus prodigieux qui ait jamais existé.
Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça?
Des protecteurs de trésors, plutôt.
C'est de la merde!
J'ai rien compris.
Tu comprends pas! Tu expliques mal! Tu ne sais pas expliquer!
C'est l'heure de On révise nos classiques sur Radio Campus Paris.
Oh putain, moteur !
L'émission qui mêle cinéma et archéologie.
On parle de quel film ce soir ?
Attends, attends, j'ai un indice.
Non, mais je ne vois pas, ça me parle pas du tout.
Mais évidemment que c'est pas parlant, c'est un film sans dialogue.
Ah !
Ce qui est compréhensible, puisque ce sont des hommes préhistoriques qui en sont les protagonistes.
Et oui, puisque ce soir, on vous parle de la guerre du feu.
Ce feu qui accompagne parfois nos soirées d'hiver ou nos nuits blanches d'été.
Et ce truc qui te donne envie de manger des chamallows, il a bien fallu le domestiquer.
Et apparemment, ça n'a pas été du gâteau. C'est en gros
l'histoire du voyage que font, il y a 80 000 ans, trois Néandertaliens qui partent à la recherche de feu parce que le leur s'est éteint en cours d'un affrontement.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est un film de Jean-Jacques
Goldman
Anno, sorti en salle en 1981.
Il est adapté d'un roman écrit en 1909 par Joseph-Henri Rony, un auteur de science-fiction.
De la science quoi?
Mais c'est du délire!
Fiction pour un film historique?
Vérité, qu'on vous cherche!
Calm down, people. Quand on le sait, ça passe tranquille.
Surtout qu'en fait, il faut dire ce qui est. Hein. On ne connaît que très peu de choses de la vie des hommes de Néandertal.
Donc quand bien même on souhaiterait se rapprocher de la réalité, bah c'est quand même un peu de la fiction.
Tiens, par exemple, on ne sait rien de leur langue. C'est pour cela que dans le film Jean-Jacques...
Rousseau?
Anno a fait appel à l'écrivain Anthony Burgess, rodé à l'expérience puisqu'il avait déjà inventé une langue pour son livre dont allait être tiré le film Orange Mécanique.
Quand on ne sait pas, bah autant inventer, hein.
En s'inspirant par exemple de probables racines indo-européennes.
Pour le feu, prenez le mot latin atrium, désignant foyer, mélangez-le avec un peu de français, latre, un peu d'anglais, ashtray, et un son légèrement animal. Vous obtiendrez le guttural.
Atre.
Donc ils inventent une langue. Mais est-ce qu'ils ont essayé de rester crédibles aussi pour tout le reste?
Un poquito. Parce qu'il y a quand même...
Oui.
De gros anachronismes.
Ouais.
Numéro uno. Dans le film, les protagonistes prennent une démarche simiesque, hyper prononcée, se balançant de chaque côté.
Sauf que les hominidés sont bipèdes depuis 3 millions d'années. Et qu'il est attesté aujourd'hui que les hommes de Néandertal, à la différence des Homo erectus par exemple, marchaient comme nous.
Numéro dos.
Ils utilisent des propulseurs.
Des quoi?
Des armes de jet qui permettent de lancer plus fort et plus loin les sagaies pour atteindre leurs adversaires.
Mais l'usage des propulseurs n'est attesté que 50 000 ans plus tard. Numéro tres.
Uepa!
Ou quattro, ou cinco, ou seis, puisque Jean-Jacques Anno se laisse ici aller à un ensemble de facilités scénaristiques dignes des plus beaux péplums.
Une idylle naissante entre le Néandertal et la Sapiens.
Un domptage de mammouth laineux à coups d'herbe fraîche.
Un cri de Tarzan à la minute 24. Improbable.
Mais surtout, il n'y a pas un truc qui te choque?
Bah si, c'est l'énorme raccourci chronologique que le film propose.
Les mecs, en l'espace de quoi, 10-15 jours, ils découvrent le rire,
la propreté,
les sentiments,
la poterie,
l'habitat en hutte,
la position du missionnaire
et à faire du feu.
Des journées bien denses donc.
On nous montre des personnages qui quittent l'état de quasi-bête pour devenir des hommes, des vrais.
L'aube de l'humanité en 1h40.
Malgré ses écarts historiques, ce film a très bien marché en salle au moment de sa sortie. Et il a considérablement marqué les esprits.
Pourquoi? Eh bien peut-être parce qu'il n'y a que les archéologues pour être choqués par les anachronismes cités plus haut. Ce qui compte, c'est d'assister à une fabuleuse aventure.
La préhistoire n'est ici finalement qu'un prétexte pour raconter une péripétie incroyable.
Et d'autant plus poignante qu'elle est extrêmement simple.
La quête du feu.
Une véritable aventure humaine qui, bien que parfois caricaturale, nous permet
de réviser nos classiques.
On se retrouve tout de suite après ça.
Bon, je vais aller planter quelques poires au fond du jardin. Ça alors, qu'est-ce que c'est
comme
que ça?
Comme beaucoup d'archéologues, on a été de jeunes archéologues. On a été donc des bénévoles sur des chantiers de fouilles quand on était jeunes. Fanny Trouvé, est-ce que vous voulez nous parler un peu de cette toute première expérience qu'on a tous, hein, on pourrait tous en parler, mais...
Alors ces premières expériences, c'est vraiment... on apprend les premiers gestes, on découvre beaucoup de choses. Ça permet aussi d'avoir un aperçu de beaucoup de techniques, beaucoup de périodes. On fait des chantiers sur 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines. Donc c'est vraiment un temps au départ où on peut découvrir vraiment ce que c'est que l'archéologie auprès de professionnels qui vous encadrent et qui vous forment et qui complètent en fait tout ce que vous apprenez après à la faculté.
Expédition Lastourville 2015, les mystérieuses cavernes du Gabon.
Bonjour à tous, aujourd'hui direction la grotte de Lastourville, pas très loin de notre camp. Une journée qui va ravir tous les scientifiques. Je vous en donne un aperçu. Nous arrivons en fin de matinée devant l'entrée, un large porche rocheux. Et déjà,
Richard,
une première découverte.
Richard, on a trouvé des dessins pariétaux.
Tu vois les dessins? Ah oui. Ah, joli.
D'abord dubitatif, Richard, en s'approchant de la gravure, change progressivement d'avis.
Franchement, ça peut être ancien. Je dirais, c'est pas un graffiti, c'est une gravure. Voilà, donc on a une ligne ici, avec 3 bosses doublées, et une forme... Et là aussi, il y en a. C'est assez spécial. C'est la toute première fois que je vois ça. Même dans les décors, les structures décoratives des poteries de la région, bon, même si la région n'est pas très très bien connue, mais j'ai déjà découvert des tessons décorés. S'il n'y a pas ce type de décor, il faut que j'approfondisse la question sur les décors. Alors c'est doublé, tu vois, chaque fois c'est doublé. Un, deux, il y a deux traits chaque fois. Et ici c'est vraiment joli, c'est un I avec deux arabesques par le bas et deux en haut. Ouais. C'est intéressant. Bon, c'est la trace laissée par un homme qui a voulu marquer un peu, d'une certaine manière, son passage, pas son territoire, mais son passage. C'est peut-être c'était peut-être sa cavité. Alors ça a été fait probablement avec quelque chose de fin. Alors on pourrait dire une pierre, mais peut-être un instrument métallique, type un peu burin, quelque chose de pointu. Donc là, il va falloir travailler un peu à relever, mais je ne m'attendais pas à ça. Et il va falloir faire de bonnes photos avec une échelle pour pouvoir après reprendre le dessin en tant que tel.
Mais avant de reprendre le dessin, il faut poursuivre les fouilles dans cette entrée prometteuse. Je rejoins Prosper quelques mètres plus loin, grattant le sol avec sa truelle.
Voilà, tu vois, tu as un fragment de poterie qui est là, deux et trois. Et là, ce sont des tessons diagnostiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous donner des informations sur le récipient et peut-être même sur la culture. Et là, ce n'est pas évident à identifier comme ça, du premier coup d'œil, si on n'a pas un œil averti, parce que ça finit par, à cause de l'eau et du milieu, ça finit par prendre une coloration, pas d'origine, mais du milieu dans lequel il est contenu. Voilà, et je vais donc commencer le prélèvement. Tu vois. Voici un. On a toujours les parties supérieures du récipient.
Et c'est quoi, à ton avis, comme récipient?
Il faudrait voir le diamètre d'ouverture pour qu'on admette, ce sont des petits bols. Ici, on a des décors. Bref, c'est plein de boue. Voilà, on a un décor apparent. Quand là?
Ah oui.
Voilà, un décor par impression. Alors, on va le voir mieux quand on aura nettoyé.
Donc tu penses que ça, c'est le témoignage de passage humain
De la présence humaine. À l'entrée, on a des gravures qui semblent avoir été réalisées avec un objet en fer pointu. Et on a aperçu des charbons de bois, mais qui ne sont pas très profonds, donc qui peuvent pas être utilisés. Et là, on a justement les récipients. Ce qui dit récipients, ça veut dire que ces individus ont passé un certain temps ici. Et qui les ont utilisés.
Les hommes se sont aventurés ici il y a longtemps, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Quand et pourquoi faire, il est encore trop tôt pour répondre. La journée semblait terminée et pourtant, en descendant le ruisseau pour rejoindre la voiture, Laurent, le spécialiste des poissons, décide d'y donner quelques coups d'épuisette. Un coup de maître.
Ça y est, là, j'ai les 30. Je suis tombé sur le banc. Oh la vache!
Tu me dois la boisson, hein?
Ça, c'est de la belle bête, ça. Ah non, là, des coups comme ça, j'en ai pas fait souvent. Hein.
En regardant de plus près ces poissons que l'on appelle Kili, Laurent est encore plus surpris.
Eh, c'est pas la même espèce, hein. Nouvelle espèce, hein. Waouh, regarde ça, putain, c'est mal. Ah non, hein. Là, c'est des tueurs. Hein. Ce qui signifie que c'est bien des espèces. Voilà, c'est bien des espèces différentes. Bon, maintenant, il faut que je fasse une photo du biotope.
Là encore, des photos et des descriptions de Kili seront nécessaires pour s'assurer de la nouveauté. Bref, archéologues, ichtyologues, spéléologues, cette journée a récompensé tout le monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans les grottes du Gabon. Tiens, qu'a donc repéré notre guide Narcisse en haut de cet arbre?
Un nid de chimpanzé.
Où ça?
Il est juste là, à moins d'un mètre. En hauteur, suspendu.
À bientôt.
Ça, c'est un nid de chimpanzé.
Ah ouais. Ben, il est vieux, hein.
Et ce nid est encore... il est encore habité?
Non, le problème, c'est que le chimpanzé ne fait qu'un nid par nuit.
Voilà.
Voilà.
Ah, ok.
Voilà. Donc, c'est une nuitée, hein. Et puis c'est fini pour lui. Le lendemain...
L'hébergement était payé à combien?
Chez toi ou chez moi? L'archéologie à l'étranger.
Chez moi, c'est chez toi.
Chez moi, c'est chez
toi. Non,
chez moi,
c'est chez toi.
Chez toi, c'est chez moi.
Chez toi, c'est chez moi. Bon, on va chez toi ou chez moi?
Aujourd'hui, dans Les Pierres qui roulent, on s'intéresse aux enjeux de la pratique de l'archéologie à l'étranger.
De très nombreuses opérations françaises de fouilles archéologiques sont en effet organisées très fréquemment un peu partout dans le monde.
Placées pour la plupart sous la co-tutelle du ministère des Affaires étrangères, elles sont explicitement présentées comme de véritables instruments de la diplomatie scientifique.
Elles engagent des moyens techniques et financiers particuliers et questionnent aussi bien ceux qui les dirigent que ceux qui les accueillent, parce que si on fait toujours, et ce quel que soit son terrain, l'archéologie de l'autre, aller chez l'autre pour faire de l'archéologie soulève de nouvelles questions.
Est-il possible de ne fouiller que pour la science? Comment travaille-t-on avec les professionnels locaux? Comment se garde-t-on d'une possible dérive de type néocolonialiste? Et quels sont les apports possibles de ces regards venus de loin? Et enfin, en bref, comment faire l'archéologie de l'autre?
Pour essayer d'en savoir un peu plus à ce sujet, nous accueillons deux jeunes doctorants en studio. Mathilde Jean, bonsoir.
Bonsoir.
Mathilde, tu es doctorante à Paris 1 dans le laboratoire ArsCan, sous la direction de M. Buterlin, et tu travailles sur la céramique proche orientale, donc plus spécifiquement, le Liban et la Syrie. Tu regardes ces céramiques avec un œil, l'œil de la technologiste et de la pétrographe, et tu te concentres sur le 3e millénaire avant Jésus-Christ.
Oui, tout à fait.
Et Rémi Méreuse, donc toi Rémi, tu es aussi doctorant à Paris 1, mais au laboratoire ArsCan. Tu réalises ta thèse sous la direction de Dominique Legoupil et de Claire Alix. Et tu travailles sur les techniques de construction des maisons tuléennes inuites en Arctique occidentale. C'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Hey, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez, Andy, quoi. Oh, dis-moi oui.
Les passagers en provenance de Berlin, Moulin Vest, Stuttgart sont priés de présenter à la visite de leur bagage.
Alors, tous les deux, vous avez eu l'occasion à plusieurs reprises de fouiller à l'étranger. Est-ce que, alors, Mathilde, toi en Oman, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Et Rémi, toi en Alaska.
Oui, et au Canada aussi.
Et au Canada également. Est-ce que c'est des choses qui vous avez toujours eu envie de partir à l'étranger pour faire de l'archéologie, ou c'est un petit peu au gré des opportunités?
Moi, personnellement, j'ai toujours eu envie de voyager, de découvrir d'autres endroits, d'autres cultures. Donc, c'était une volonté, bien sûr, d'aller travailler à l'étranger.
Et la péninsule arabique t'attirait déjà auparavant, ou...
La péninsule arabique et le Proche-Orient, le monde arabe, disons, en général, Moyen-Oriental, ouais, m'attirait beaucoup. D'accord. Les autres endroits également, mais il se trouve que c'est là-dessus que je travaille.
D'accord. Et toi, Rémi?
Et moi, oui, j'ai toujours voulu partir et ça a toujours été l'Arctique. Aussi. Avant même de commencer l'archéologie, j'avais été impressionné tout petit quand j'avais vu Nanook. Et donc depuis, j'ai voulu partir dans l'Arctique, quoi qu'il arrive.
C'est ce qu'on appelle une idée fixe. est-ce que qui part à l'étranger faire des fouilles archéologiques? Est-ce qu'on peut partir à n'importe quel moment de sa carrière? Est-ce qu'il faut des prérequis particuliers?
Alors, tout étudiant, bien sûr, peut partir du moment où il se spécialise. Ça va dépendre des projets, mais du moment où il peut trouver un projet, ça peut être dès la licence ou sinon en master. Il y a des étudiants qui partent plus tard en thèse. Mais après tout, il y a aussi des archéologues déjà confirmés qui se mettent tardivement à partir à l'étranger. Parce que par exemple, on peut penser au chantier auquel participe l'INRAP. À l'étranger, on va avoir des archéologues qui ont fouillé 10-15 ans en France et qui à un moment se retrouvent à travailler, par exemple, les topographes de l'équipe d'Île-de-France qui vont à Petra.
Oui, c'est ça. C'est des missions qui sont montées souvent par des membres d'universités ou des chercheurs du CNRS et qui peuvent prendre sur les missions des étudiants la plupart du temps à partir du master. Ça peut se faire aussi à d'autres moments. Moi, pour ma part, j'ai commencé à partir en master 1 à l'étranger parce que j'ai trouvé une mission justement qui a bien voulu... me prendre en fait sur le projet.
D'accord, donc c'est une demande, on peut faire la demande d'intégrer
des
missions.
C'est ça, c'est souvent par le biais de l'université et des professeurs qu'on peut montrer une motivation pour partir sur ce genre de mission et rentrer dans des projets.
Et pour combien de temps on part en général une mission?
Alors, pour combien de temps? C'est toujours un temps nécessairement un peu long, puisque c'est un investissement. Il faut partir loin et payer un billet pour payer un billet à toute une équipe pour juste faire un terrain de 2-3 semaines, ça ne vaut pas la peine. Ça demande beaucoup d'infrastructures, quels que soient nos terrains. Avec Mathilde, c'est vrai qu'en plus, on travaille dans des zones désertiques qui demandent donc une infrastructure supplémentaire. Ce qui fait que, moi, le terrain le plus court sur lequel je suis allé dans l'Arctique, c'était 6 semaines. Voilà. On fait jamais moins, plus après, du temps sur place, pour préparer évidemment les choses, puis du temps d'études. En fait, on ne m'a jamais financé un billet si je partais moins de 3 mois.
D'accord.
Donc je pars minimum 3 mois par an.
Et plus de 3 mois, c'est... Jusqu'à quand ou jusqu'à combien de temps, du coup ?
Alors moi, je ne suis jamais parti plus de 6 mois. Je pars entre 3 mois et 6 mois. Mais beaucoup de nos camarades doctorants du même laboratoire d'archéologie des Amériques, eux partent pour 6 mois, un an, facilement. Pour 8 mois, je veux dire, un an.
D'accord. Et pour toi, Mathilde ?
Moi, c'est des missions un peu plus courtes. Bon, d'une part, c'est un petit peu plus près, mais au-delà de ça... les missions en Orient, de manière un peu traditionnelle, on va dire, dans cette discipline, se déroulent en général entre un mois et 3 mois. Moi, en général, je reste un mois et demi sur place, à peu près. Parfois un peu plus, parfois un petit peu moins, mais voilà, c'est de cet ordre-là, quoi.
Donc c'est assez court, en fait, finalement.
C'est assez court, ouais. Ça passe assez vite.
D'accord.
Et qu'est-ce qu'on ressent quand on part ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on part ? Quel sentiment ? Est-ce qu'on est excité ? Est-ce qu'on a peur ? Est-ce qu'on appréhende ?
Y a toujours un peu des deux. On est très heureux de partir parce que ça nous change de notre vie quotidienne, parce que au bout d'un moment aussi on sait dans quel endroit on va et c'est des endroits qu'on aime, donc c'est un grand plaisir de partir, de retrouver finalement le réseau aussi d'amis qu'on a pu se créer sur place, des endroits qui commencent à nous tenir à cœur. Après, on laisse aussi une vie derrière nous, parce qu'on a une vie en France, on a une famille, des amis, etc. Et donc c'est toujours aussi un petit pincement au cœur, même si on sait qu'on va revenir, quoi.
Et toi, Rémi, qui pars du coup parfois plus longtemps
Alors justement, c'est toujours un peu compliqué. C'est une habitude qu'on prend. C'est vrai que c'est terrible. Évidemment, c'est une habitude qu'on prend à avoir le cœur un peu déchiré. Donc on sait qu'on va avoir le cœur déchiré.
La vie de l'archéologue est décidément vraiment très difficile.
Bon, je sais que dans 2 semaines, mon cœur va être déchiré. Je sais que ça prend 3-4 jours pour se réparer.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est terrible.
Mais je vais passer une mauvaise passe et après ça ira mieux.
C'est exactement ça. En même temps, c'est vrai que c'est terriblement excitant. Et même la première fois qu'on part sur des terrains comme ça, après tout, c'est vrai que dans l'Arctique, il y a toujours ce truc de... À la fois, c'est très très cool et très excitant de partir, de prendre l'avion, l'hélicoptère, d'avoir des ours. Mais en même temps, on prend l'hélicoptère, on a des ours, on est bloqué dans le brouillard, on sait qu'on doit avoir un entraînement, fusil à pompe, enfin, des choses pas rassurantes. Donc, il y a toujours évidemment cette excitation aussi de ce côté un peu aventure, finalement. Mais en même temps, une fois qu'on est là-bas, on est tellement bien que...
voilà, qu'au final, on a la même chose en rentrant. On a le cœur déchiré aussi en rentrant, parce qu'on laisse derrière nous un monde qu'on aime beaucoup, quoi.
Est-ce qu'il existe ce risque du néocolonialisme ? Est-ce que parfois on peut sentir ce petit problème quand on est sur des terrains à l'étranger ?
Alors, pour ce qui est dans l'Amérique du Nord, c'est un peu compliqué, parce que à la fois on est dans un pays... qui lui-même est un pays, entre guillemets, c'est un pays occidental, mais quand on va fouiller les populations autochtones. Donc c'est toujours ce gros problème, qui est toujours un problème politique majeur, du rapport entre le citoyen habituel ou le citoyen autochtone. Et des gens qui font toujours la différence, de toute façon, les statuts eux-mêmes sont différents. Par exemple, au Canada, on ne paye pas de taxes, mais on va avoir accès à d'autres choses, et on n'a pas exactement tout à fait le même statut qu'un autre. Donc, la loi prévoit toujours un nombre de défenses, d'ailleurs assez importantes, de l'autochtone pour éviter la dérive, entre guillemets, néocolonialiste. C'est toujours cette peur de tomber là-dedans. D'où le fait qu'on doive employer, en effet, des ouvriers, enfin des archéologues, quoi, pour venir nous aider. Fouillons, on doit employer des gens, des villages sur place. Mais finalement, en termes de néocolonialisme, c'est un peu compliqué. Déjà, moi, je suis étranger par rapport à chez eux, donc je n'ai pas ce même rapport qu'auraient, par exemple, des Canadiens blancs quand ils rencontrent des Canadiens autochtones, qui est quelque chose, finalement, d'assez surprenant. On arrive à des considérations, des fois, on est surpris de certaines réactions. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus, d'ailleurs, en Alaska, où, en effet, on a ce rapport, finalement, de beaucoup de gens qui viennent au Western. Donc le western qui est une forme de... qui est un colonialisme, et des gens qui viennent comme en western, même des archéologues, hein, qui viennent en disant « Moi j'arrive, enfin faites comme moi, venez, prenez tout ce qu'il y a dans la terre. » Ça va aussi avec cette industrie pétrolière qui est en plein essor à nouveau, c'est super sympa. Et prenez ce qu'il y a dans la terre, et une fois que c'est fait, vous pouvez rentrer chez vous dans le sud. Et donc en effet, cette dérive néocolonialiste, on la voit souvent, mais elle ne nous concerne pas nous directement souvent en tant qu'archéologues, parce que c'est pas un lieu où on n'a pas ces liens-là. Et en plus, en tant qu'archéologue, on vient directement étudier les gens, ces choses. Enfin, on vient directement étudier des cultures avec les gens qui sont liés à ces cultures. Donc nous-mêmes, on n'est pas directement dans ce phénomène.
Mais il y a quand même un passif colonialisme par rapport à ton terrain. Et est-ce que tu ressens, au niveau de l'histoire qui se sont construites, cette influence qu'il y a eu justement ?
Alors, ce passif colonialiste, on le voit à deux niveaux. Alors, on le voit déjà au fait que c'est des populations, qui c'est quelque chose dont on parle d'ailleurs souvent avec Mathilde, c'est des populations qui sont complètement occidentalisées. C'est des modes de vie qui n'ont plus rien à voir avec ceux de leurs ancêtres étant dans l'Arctique américain. Les modes de vie, ils ont changé que à cause de la guerre froide. Donc dans les années 50, donc c'est encore quelque chose de très récent. Les gens avec qui on travaille, leurs parents, leurs grands-parents, étaient encore semi-nomades. Donc c'est quelque chose vraiment d'extrêmement récent. C'est, les maisons dans lesquelles ils vivent n'ont jamais plus de 50 ans. Donc c'est quelque chose d'assez particulier de ce point de vue-là. Après, en effet, ce néocolonialisme, il se voit beaucoup en termes de... Les populations locales se méfient énormément des chercheurs, de façon générale, et notamment des chercheurs en anthropologie. Toute une partie de la recherche, notamment la recherche américaine, a créé beaucoup de torts. Au début du XXe siècle, en fait, aux États-Unis, on a la confrontation de deux écoles, le Smithsonian et le National Museum of Natural History. Et l'un avait comme tête de figure Franz Boas, qui lui a fait beaucoup de choses très positives quand il est parti et fondé l'école d'anthropologie. Et de l'autre côté, c'était Aleš Hřiška. Tous les deux, en plus, d'origine tchèque, donc tous les deux se connaissent en fait finalement assez bien. Sauf que l'un était pour la compréhension et les rapports sympathiques avec les populations locales, et Hřiška faisait de la craniométrie et allait déterrer un peu n'importe qui sans faire attention aux périodes. Et souvent, c'était le grand-père de la personne qui vivait dans le village. Alors bien sûr, les gens n'étaient pas contents, donc il y allait la nuit. Comme ça, il repartait avec le squelette. Et beaucoup comme ça, on a eu beaucoup d'archéologues et d'anthropologues en fait, qui ont fonctionné comme ça jusque dans les années 30. C'est vraiment la Seconde Guerre mondiale qui balaye, et puis la guerre froide en fait, qui balaye tout ça, qui fait qu'on fait un peu plus attention. Mais c'est vrai que tous ces comportements ont créé beaucoup de torts. Et aujourd'hui encore, en effet, les populations autochtones se méfient. Et par exemple, elles ont toujours droit à un droit de regard. Et dans certains cas, on peut avoir de mauvaises surprises, puisqu'on a toujours le droit d'étudier, mais les populations, on a le droit d'étudier leur culture, la culture de leurs ancêtres. Mais au dernier moment, ils peuvent toujours nous interdire. Ils ont la propriété des données, quoi qu'il arrive, même si on est financé par le ministère des Affaires étrangères, même si on sait un projet français, même si c'est l'université, même si c'est une université locale. La propriété des recherches leur appartient toujours. On n'a pas le droit de publier sans leur accord. Et on peut avoir des surprises. Après 10 ans de recherche, je connais un projet comme ça dans le delta du Mackenzie, où justement je travaille, d'une archéologue qui s'est brouillée avec un des chefs de village, puisqu'on a des conseils tribaux dans ces villages, et qui s'est brouillée avec le chef du conseil tribal et qui a vu 10 ans de ses recherches interdites de publication.
D'accord. Et en nomade, du coup, est-ce que les données, c'est la même chose? Vous devez les laisser sur place ou vous pouvez repartir avec...
Non, alors on laisse tout sur place. À l'issue de la mission, en fait, tout le matériel qu'on a pu découvrir, c'est-à-dire les objets qu'on a pu découvrir et les structures aussi, sont documentés, donc photographiés, relevés, etc. Souvent, nous, on fait de plus en plus aussi tout ce qui est, sur la mission, tout ce qui est drone, photogrammétrie, etc. Donc, on a une documentation qui est de plus en plus complète. Et à l'issue de la fouille, on rédige, avant de partir, un rapport qu'on rend avec tout le matériel au ministère en partant. Donc, en fait, quand on quitte le terrain, on a laissé tout le matériel, on a laissé aussi tous les rapports, toutes les données aux gens sur place. Par contre, après, pour tout ce qui est de la publication, etc., là, c'est quand même nous qui nous en occupons, mais je veux dire, on s'attribue rien au niveau du matériel, on transmet toutes les informations, on associe toujours le ministère local qui a aussi contribué à la mission, nous a financé, etc., nous a accueillis, surtout nous a autorisé à faire ces recherches. Donc il y a une collaboration et on est dans un bon équilibre, je pense, là actuellement, et les locaux sont même assez demandeurs de missions françaises, quoi, maintenant, sur place, quoi.